France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Il y a du mouvement.
Et ça, c'est pas facile pour moi de me concentrer parce que ça bouge beaucoup.
De quoi tu parles ?
Enfin, notre mère à tous ! La Terre !
D'après la théorie de Wegener, la Terre qui jusqu'alors ne formait qu'une masse va se diviser et les continents vont dériver pour atteindre leur position actuelle.
En fait, ça vient de la tectonique des plaques.
Ah bah, c'est un peu comme tu peux imaginer, hein. Ça part dans tous les sens, mais c'est très vivant.
Prenez une carte de la Terre sous vos yeux, force est de constater que les continents semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. De part et d'autre des océans, des similitudes existent sur la nature des roches et sur la distribution passée de la faune et de la flore. C'est sur ces coïncidences, trop belles pour être vraies, qu'Alfred Wegener va formuler sa dérive des continents à l'aube de la Première Guerre mondiale. Une théorie massivement rejetée par la communauté scientifique, ce n'est que dans les années 50 que les preuves émanant de multiples disciplines convergent pour établir une toute autre et nouvelle théorie de la dynamique de la surface terrestre, le modèle de tectonique des plaques. Pourquoi la théorie de Wegener a-t-elle suscité tant de réactions négatives? Quand un modèle plus juste et unificateur des sciences de la Terre a-t-il émergé? Comment la tectonique des plaques a-t-elle changé le monde? Et pour explorer cette histoire mouvante, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de France Culture Philippe Le Vigoureux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences et chercheur associé au Centre François Viette de l'Université de Nantes. Et à distance, nous sommes en ligne avec Pierre Savaton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également historien des sciences, vous enseignez la géologie à l'Université Caen Normandie et vous êtes également chercheur au Centre François Viette et vous êtes tous les deux membres du comité français d'histoire de la géologie appelé le COFRIGEO. Dérive des continents et tectonique des plaques sont souvent vues comme un continuum, mais on va s'attacher justement dans cette émission à comprendre comment l'une et l'autre de ces théories et modèles ont émergé. Mais si on se place temporellement avant ces deux théories, il y a une observation qui est faite depuis longtemps, c'est ce que je disais en introduction, c'est que les continents semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. Pierre Savaton, c'est une troublante coïncidence qui avait été faite à de multiples reprises, j'imagine, dans l'histoire des sciences.
Oui, à partir du moment où on disposait de cartes du globe, on pouvait se rendre compte de ces correspondances. Donc c'est vrai que quelque part, si on prenait Groucho Marx, n'importe qui, un enfant de 5 ans, aurait pu l'avoir. Mais c'est pas parce qu'on constate qu'on pourrait emboîter si on découpait qu'on a créé une théorie.
La théorie vient plus tard. Il y a une autre question aussi qui se pose, Philippe Le Vigoureux, c'est la question centrale, d'où viennent les montagnes? Il y a des reliefs qu'on observe à l'extérieur, sur les continents. Il y a aussi les fosses, les océans, en fait, dont on ne sait absolument rien. Est-ce que c'est une question qui commence à agiter la communauté scientifique au 18e, 19e siècle ou même avant?
Alors au 19e siècle en particulier, se pose la question de la formation des chaînes de montagnes, effectivement. Autant la carte de l'océan Atlantique et des rivages de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, on voyait que ça s'emboîtait dès le 18e siècle, effectivement. 19e siècle aussi, ça se confirme, évidemment. Se pose effectivement la question de la formation des chaînes de montagnes. Donc en fait, ce sont plusieurs aspects de l'aspect de la surface du globe qui sont à expliquer finalement par la science. Et voilà, donc des théories vont se développer pour expliquer aussi ce trait particulier de la surface de la...
On va venir justement à des théories qu'on dit fixistes qui vont émerger au 19e siècle, c'est-à-dire qu'elles ne font pas appel à la mobilité de la surface ou de l'intérieur en fait de la Terre. Un petit mot plus général d'histoire des sciences, Pierre Savaton, c'est pas si étonnant peut-être d'avoir recours à une forme de fixisme au 19e siècle parce que c'est aussi ce qu'on voit en fait en cosmologie ou pour l'évolution des espèces en fait. Rien ne bouge, c'est un peu l'idée générale.
Oui, puis si on considère que ces sciences sont construites sur l'observation, l'observation directe et immédiate, eh bien, c'est vrai que on est sur des phénomènes qui ont une telle vitesse que tout est fixe. À l'échelle de l'homme, à l'échelle de l'observateur, tout est fixe à cette époque-là. Il faudrait avoir des données, même nos données historiques, même si on avait pris en compte une cartographie, pourquoi pas, on n'aurait rien pu voir. Donc il y a une logique à ce qu'on ait pensé, d'abord la fixité, et il va falloir trouver des arguments pour penser autrement. Donc, on pourrait dire une logique et une normalité, en quelque sorte.
On va entrer justement un petit peu dans cette théorie fixiste, Philippe Le Vigoureux. Ça veut dire on n'avait pas de pensée sur la mobilité à la surface, mais non plus à l'intérieur de la Terre. Il y a peut-être un enjeu.
Non, alors l'intérieur de la Terre était était totalement méconnu, mais tout à l'heure vous évoquiez le fond des océans, c'était également totalement méconnu pendant jusqu'au début du XXe siècle.
On pensait quoi justement? On pensait que tout était une surface plane.
Alors on savait qu'il y avait effectivement des dénivelés, des reliefs, hein, les chaînes de montagnes, on avait les océans qui étaient en profondeur, on avait une idée de la profondeur des océans autour de 5000 mètres de profondeur, éventuellement des choses comme ça, mais pour autant expliquer ces traits et l'histoire de la formation de ces océans, etc., ça faisait appel à d'autres considérations qui vont émerger, alors en Europe d'une part, aux États-Unis d'autre part, dans le courant du 19e siècle.
J'aimerais qu'on rentre justement dans ces deux théories un petit peu américaines et européennes. Il y a le nom d'Edward Suss, qui est un personnage important de cette histoire, parce que c'est le premier ou un des premiers qui tente de décrire l'histoire tectonique de la planète, c'est-à-dire l'origine des grandes structures géologiques. Quelle était un petit peu son idée générale? Il fait un énorme ouvrage qui s'appelle La face de la Terre, où il tente de rassembler un peu ses observations, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, à la fin du 19e siècle, il publie l'ensemble des connaissances quasiment de l'époque sur la géologie, sur les reliefs, etc., sur les formations qu'il peut y avoir à la surface du globe. Et il inscrit la formation de ces reliefs dans une conception du globe terrestre qui, au cours des siècles, refroidit. Depuis le moment de sa formation, le globe terrestre refroidit et une image a été associée à sa vision des choses, c'est la pomme ridée. Lorsqu'on laisse une pomme sur un rebord de buffet, de meuble, on voit qu'avec le temps, à sa surface, elle se plisse, elle forme des hauts et puis des bas. Et donc le globe terrestre, voilà l'image que l'on avait, par refroidissement, alors que la pomme, c'est surtout par déshydratation hein, qu'elle va prendre cet aspect ridé. Le globe terrestre, lui, en refroidissant, va aussi avoir cet aspect. Donc, il y a une contraction du globe et du coup, formation de zones qui vont être surélevées et puis de zones qui vont être en contrebas, en fossé.
Qui sont les océans.
Qui vont être occupés par l'eau, effectivement, pour former les océans.
Il y a un moteur qui est peut-être un peu central dans cette idée-là, Pierre Sabaton, c'est la question de la contraction thermique. En fait, on a du mal aussi à expliquer à ce moment-là, on voit que au cœur de la Terre, quand on creuse les mines, il fait de plus en plus chaud, donc il y a une forme de chaleur, et cette chaleur doit bien sortir quelque part. Il y a cette question centrale, en fait, de la chaleur de la Terre, Pierre Sabaton.
Il y a cette question centrale, et puis il y a un modèle qu'on pourrait remonter, donc, de ce que disait Philippe Levigouroux sur cette chaleur centrale, sur un modèle de Buffon. Le comte Buffon, dans ses époques de la nature, a proposé que la Terre a commencé comme une boule de feu. Et que cette boule de feu s'est refroidie, et donc progressivement, on a eu une croûte, et puis une chaleur centrale. Et en fait, ce modèle de Buffon reprend aussi un modèle encore plus ancien. On pourrait remonter à Descartes. Chez Descartes, il y a un feu central. Et donc, il y a une conception qui va se vérifier en quelque sorte par le mineur. Le mineur sait que la température augmente lorsqu'il descend. Et donc, on peut rejoindre ce modèle purement spéculatif, celui de Buffon et de Descartes, avec des observations du mineur que la température augmente. Et donc, on n'a pas les moyens de le quantifier, surtout au 18e. Au 19e, on va tenter de mesurer, et puis on va débattre de savoir est-ce qu'on a encore suffisamment de chaleur pour que l'intérieur puisse être encore à l'état liquide ou tout est solide, mais encore à haute température. Donc, il y a, au cours de ce 19e, des débats. Lord Kelvin entrera dans ces débats parce que ces débats ont aussi alimenté des calculs tels que ceux qu'avait fait Buffon sur l'âge de la Terre. Puisque si on supposait la Terre au départ en état de fusion, eh bien, on peut calculer depuis combien de temps elle doit se refroidir pour être à la température où elle est aujourd'hui en surface. Donc ça a nourri aussi certain nombre de représentations et de débats scientifiques sur une histoire, une cosmogonie de la Terre.
Et sur cet aspect toujours fixiste en fait de Suss, est-ce qu'il développe aussi un lien finalement à travers l'océan Atlantique sur le continent, sur un lien entre les continents américains et européens, Philippe Levigouroux?
Alors l'océan Atlantique est un effondrement. Hein. Tout à l'heure j'évoquais qu'il y a des dépressions qui se formaient par refroidissement. Donc voilà, l'océan Atlantique est une zone qui s'est effondrée, qui à une époque devait être au même niveau que les continents européens et américains, et qui du fait du refroidissement déplacements, des rééquilibrages nécessaires à la surface du globe, s'est effondré. Et les océans, d'une façon générale, sont des zones d'effondrement. Hein, il avait une formule qui était le globe s'effondre. Voilà, hein, quand on regarde le globe, c'est les effondrements qu'on constate.
Comme un pont qui serait tombé, finalement.
Voilà, c'est ça, c'est des choses qui... Alors, ça veut dire que ces zones qui sont désormais effondrées, à une époque, devaient être en surface. Et donc, avec éventuellement la vie qui était présente, etc., qui permettait de faire passer des animaux, des espèces végétales, du continent européen au continent américain, du continent africain au continent sud-américain, etc.
Donc ça veut dire finalement que sous voit la même nature en fait des continents et des océans, vu qu'il y a une forme d'effondrement. Pierre Sabaton, il y a une autre théorie fixiste en fait qui s'oppose à celle-ci, qui est une théorie américaine en fait par James Dana, qu'on appelle permatentiste. Est-ce que vous pouvez nous exposer justement quelle est sa théorie et puis quelle est la distinction finalement qu'on fait avec celle européenne de sous?
Le permanentisme qui va se développer aux États-Unis, il repose sur des observations qui sont aussi américaines de départ. Quand vous voyagez d'est en ouest aux États-Unis, vous repérez une variation de la topographie. Il y a des chaînes de montagnes de part et d'autre. Et puis après ces chaînes de montagnes, on descend dans l'océan Atlantique ou on descend dans l'océan Pacifique, donc dans des bassins, dans des cuvettes. Et donc ils ont un modèle qui est un modèle qui tente aussi d'entretenir ce paysage. C'est-à-dire qu'en gros, l'Amérique a des plateaux, a des chaînes de montagnes, il y a des océans, et l'idée c'est que ceci a toujours existé, même si on a déjà, depuis, je dirais, l'Antiquité, puis on l'a repris au 18e, on a beaucoup discouru sur le fait que les montagnes s'usent. Si elles s'érodent, elles doivent finir par disparaître, donc il n'y aurait plus de relief. Et si elles s'érodent, les débris vont s'accumuler dans les cuvettes, les bassins. Donc on devrait remplir les bassins. Et donc, dans leur modèle, il faut qu'il y ait un mécanisme d'entretien pour que finalement, la surface reste telle qu'elle. Les montagnes sont autour des montagnes parce qu'il doit y avoir un processus qui permet de remonter ces bordures, ces chaînes liminaires en bordure des océans. On accumule dans des cuvettes et on crée une chaîne. Enfin, Philippe peut peut-être revenir sur le fait qu'il y a deux figures importantes que vous avez évoquées, Dana et Hall, et qu'en fait, les deux vont proposer deux théories permanentistes. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire les théories permanentistes qui sont résumées sur l'idée que la surface est telle qu'elle a toujours été et elle est entretenue.
Philippe, oui, voilà. Je laisse répondre.
Oui. Donc effectivement, alors ce sont les deux fondateurs effectivement de ces théories permanentistes. Bon, ceci dit, il va y avoir au cours de la deuxième moitié du 19e siècle une uniformisation. Hein, il va y avoir une tendance à créer cette théorie permanentiste un peu consensuelle, on va dire. Et donc on a là deux visions. Je reprends la théorie fixiste permanentiste américaine, et la théorie fixiste d'Edward Suess, qu'on qualifie de fixiste contractionniste, parce que Suess accorde beaucoup d'attention au refroidissement et à ses conséquences, alors que chez les Américains, on est toujours dans l'idée d'un refroidissement, mais c'est pas là le point majeur de leur théorie. Hein. Ils partent effectivement, comme l'a dit Pierre, de leurs observations de terrain et sur place. Eux, leur modèle, ce sont les Appalaches du côté est américain, près de l'Atlantique. Et ils constatent que leurs chaînes de montagnes sont proches des océans. Donc effectivement, elles s'usent. Les sédiments partent dans une fosse qui est à la limite entre le domaine océanique et le domaine continental et s'accumulent dans cette zone. Et ils considèrent qu'il y a deux types de matériaux, un matériau qui va constituer le domaine continental et un matériau qui a d'autres propriétés physiques qui va constituer le fond océanique. Contrairement à l'idée européenne où, globalement, vous le disiez tout à l'heure, l'ensemble du globe terrestre, de la surface du globe, est à peu près uniforme du point de vue de sa constitution.
Ce qui est intéressant, c'est que les deux ne sont pas compatibles, en fait, finalement, et qu'il y a des preuves de chacun des deux côtés qui vont abonder, en fait, chacune des deux théories parce qu'on n'est pas sur les mêmes continents.
Exactement. Il y a un seul objet, la planète Terre, le globe terrestre, mais il y a au moins deux, avec éventuellement des petites modifications dans des théories complémentaires, mais il y a deux grandes visions pour expliquer ce seul globe terrestre et qui ne sont pas compatibles entre elles. Et justement, on arrive au début du XXe siècle, dans ce contexte, bon voilà, c'est un problème du point de vue scientifique.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques,
Alexandra Delbo.
C'est sur ces incohérences justement que va se développer finalement la théorie de dérive des continents d'Alfred Wegener et surtout sur la similitude en fait qu'il y a de part et d'autre de l'Atlantique. On écoute une archive de l'INA de 1969 de Jean Kogel, vice-président du Bureau de recherche géologique.
C'est Alfred Wegener qui, il y a plus de 50 ans, a été frappé essentiellement par l'analogie de forme entre les côtes du Brésil et du golfe de Guinée, et qui a émis l'hypothèse que l'Amérique du Sud et l'Afrique avaient été autrefois jointives. Cette théorie avait été beaucoup discutée à l'époque, et elle a donné lieu à de nombreuses comparaisons entre la constitution géologique de l'Afrique et du Brésil d'une part. Il y a 2 ans encore, un colloque de l'UNESCO est allé comparer une fois les granites de la région du golfe de Guinée et l'année suivante les granites du Brésil pour reconnaître leurs analogies. Il y a d'ailleurs d'autres analogies, en particulier dans les terrains sédimentaires du sud de l'Afrique et du sud de l'Amérique, qui ont été reconnus depuis longtemps. Tous les travaux récents n'ont fait que souligner ces analogies qui constituent vraiment des arguments assez frappants.
C'est sur ces premières analogies finalement que Alfred Wegener va fonder sa théorie. J'aimerais venir sur un point peut-être intéressant. Wegener n'est pas géologue de formation, mais astronome et météorologue. Pierre Sabaton, est-ce que justement c'est pas important dans cette histoire du fait qu'il ne s'intéresse pas directement à la géologie et que finalement il a plutôt une approche généraliste ?
Alors ça va être important pour des tas de raisons. D'abord, rien que la manière dont on le présente comme météorologue, ou on pourrait dire physicien de l'atmosphère, le positionne en fait entre une approche naturaliste du géologue classique ou du biologiste, botaniste, zoologiste, qui est l'accumulation d'observations, d'objets, voire de processus, et puis donc qui permettent aux biologistes comme aux géologues de construire de manière inductive une explication, une hypothèse, une thèse, une théorie. Et de l'autre côté, la physique, c'est pour ça que je revenais sur ce mot de physique, et une physique qui s'inscrit dans une science beaucoup plus déductive, qui s'appuie sur une formalisation mathématique, où partant de lois, de propriétés, on va pouvoir déduire des objets. Et donc, l'originalité de Wegener, c'est que il vient d'un autre champ. Il n'est pas ni biologiste, ni géologue, ni paléontologue. Il n'est pas directement un physicien de ceux qui ont travaillé sur les propriétés internes des roches, ou par exemple, à cette époque-là, de ceux qui commencent à travailler sur la sismologie. Il vient de ce champ de l'atmosphère. Et donc, c'est un peu un regard extérieur, et Philippe reviendra là-dessus, ça sera aussi un des reproches qui va lui être fait de manière indirecte. En gros, quelque sorte, c'est quelqu'un de l'extérieur qui parle d'un objet qu'il maîtrise pas. Mais en même temps, c'est ça la grande importance, c'est que il regarde, il lit beaucoup, c'est un homme extrêmement instruit, et partant de ce constat qu'on entendait dans cette archive de Jean Kogel, partant d'un constat que d'autres auraient pu faire, il va pas s'arrêter là, il va voir comment ce constat résonne en biologie, en paléontologie, en géologie, donc dans quantité de champs scientifiques, pour dire, ben, quand je lis ces papiers un petit peu partout, je me dis qu'il y a un moyen d'expliquer aisément les coïncidences, les analogies trouvées de part et d'autre, ce serrait d'emboîter. Et donc il y a cet enclenchement qui devient beaucoup plus fort que de dire on pourrait compléter. Non, on pourrait compléter parce que quand je lis de la paléontologie, de la biologie, de la géologie, je peux affirmer qu'il y aurait un moyen simple d'expliquer tout cela. Donc je peux induire ici un cadre, une thèse, une théorie des translations.
Oui, justement, c'est son approche généraliste qui va l'amener à piocher à droite et à gauche en fait différents arguments. On va revenir justement sur ces arguments pour étayer sa théorie. Philippe Le Vigouroux, on part forcément des similitudes géologiques, donc de part et d'autre de l'Atlantique. Déjà, il fait un constat, ou en tout cas avec ce qu'il lit, il voit qu'il y a des similitudes et c'est un peu le point de départ.
Oui, tout à fait. Alors, son point de départ, il le raconte dans l'introduction de son premier ouvrage, c'est simplement constater sur la carte l'emboîtement du profil des côtes. Hein, exactement ce que tout le monde a fait et ce que n'importe qui devant une carte fait, a priori. En particulier de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et donc, à partir de cette intuition initiale, il commence à constater qu'il y a des données d'ordre paléontologique qui vont faire retrouver du côté africain et du côté sud-américain, des espèces fossiles qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Ça va être la même chose dans le domaine de la géologie. Il y a des chaînes de montagnes qui semblent se prolonger, toujours est-il, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc il y a une certaine coïncidence l'on rapproche Amérique du Sud de l'Afrique, lorsqu'on emboîte ces deux continents. Et donc, il accumule ces données, il accumule également des données, donc on a dit biologiques, hein, les espèces actuelles, paléontologiques, les espèces fossiles, géologiques, et puis il y a également des données d'ordre paléoclimatique. Et ces données paléoclimatiques, il faut dire que disons que sa conception qui conduit à remonter le temps et à rapprocher des continents va permettre d'expliquer un certain nombre de caractéristiques comme les gisements de charbon, les traces de déserts anciens, les traces de glaciation sur des continents qui aujourd'hui ne sont pas situés à des latitudes qui permettraient d'avoir des glaciers. On n'arrive pas à les expliquer.
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je ne sais pas à quel point c'est important, mais il est marié à la fille du paléoclimatologue Vladimir Köppen. Je pense que ça joue un rôle aussi indirectement.
Alors, c'est d'ailleurs à ce beau-père qu'il va d'abord communiquer ces informations avant de les diffuser publiquement en janvier 1912, dans des conférences et puis en mars-avril dans des articles. Alors, des articles, je fais juste une incise ici, des articles dans une revue allemande de géographie, première revue dans laquelle il va publier, et puis une revue, alors qui a beaucoup moins d'audience, qui est une jeune revue, qui doit être à son deuxième numéro, de géologie. Donc d'emblée, il va inscrire aussi son travail dans le domaine, effectivement, de la géologie. Sauf que c'est une revue qui est relativement récente, qui n'est pas forcément encore très diffusée, très connue. Et puis, il va y avoir les événements de la guerre qui vont arriver et donc qui vont ralentir aussi la diffusion. Mais la revue de géographie est une revue de très bon niveau, très diffusée. Et voilà, alors les géographes vont en discuter, les géographes allemands en particulier, un peu moins les géographes français. On va y venir.
On va y venir. Pierre Sabaton, je voudrais quand même comprendre que dit finalement sa théorie précisément, que les continents bougent, qu'ils n'ont pas été toujours à la même place. Est-ce que c'est lui qui nomme cette dérive des continents ?
Alors, donc, ce que dit sa théorie, c'est qu'au départ, toutes les masses des continents actuels devaient n'en former qu'une seule. Il y avait un grand continent, un continent unique, une Pangée, Terre complète, ou un continent primitif, un ourcontinent. Et partant de ce continent unique, il se serait fracturé et les blocs auraient migré, s'éloignant les uns des autres. Alors ces blocs, il les imagine, ces masses continentales, comme reposant sur des matériaux, donc un substratum qui serait le même que celui du fond des océans actuels. Ce qui fait qu'il faut imaginer, dans sa représentation, il faut imaginer les continents comme étant de gros glaçons, et l'image n'est pas au hasard, c'est-à-dire en partie émergés, mais en grande partie immergés, leur base, dans ce substratum. Et son idée, c'est donc que ces blocs ont pu se déplacer, ont pu se translater, d'où translation. Hein. Et l'image de cette dérive, et Philippe reviendra sur la dimension peut-être un peu négative du mot dérive, comme l'a fait remarquer Naomi Reskes notamment, son idée c'est que ces masses après vont se déplacer à la surface du globe, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'elles se déplaceraient comme un bloc de glace se déplacerait dans l'océan, une partie étant immergée. Et donc sa théorie, elle consiste à dire la masse s'est fragmentée. Et puis d'expliquer que si certains de ces continents donc se déplacent et se trouvent face à une force, c'est-à-dire que quand vous déplacez un radeau à l'avant du radeau, vous avez une compression, eh bien ça peut expliquer par exemple la chaîne de montagnes qu'on trouve du côté est de l'Amérique.
Philippe Le Vigoureux, un petit mot peut-être sur ce terme de dérive. Est-ce qu'il y a un aspect un peu péjoratif?
Alors, il y a un aspect péjoratif dans le sens où, en particulier, c'est associé un peu à un vagabondage des continents. Hein. Il n'y a pas de direction, ça.
Pas vraiment
il y a
de moteur.
Et justement, comment expliquer que ces continents puissent bouger? Comment, quel pourrait être le moteur? Et ça va être un défaut. Mais Wegener était lucide. Hein.
Il savait qu'il
lui manquait cette explication pour que les continents puissent se fracturer, comme vient de le rappeler Pierre, que les continents puissent se fracturer et que les blocs qui en sont issus puissent bouger à la surface, etc. Donc ça, c'était un point effectivement qui a posé problème, et en particulier dans son rejet. Dans le rejet de cette théorie, l'absence de moteur. Alors, il a dit qu'il n'était pas le Newton de sa théorie, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore l'explication pour ça, mais qu'il ne doutait pas que ça pourrait arriver un peu plus tard.
Il lui manque justement ce comment. J'aimerais comprendre un petit peu quelle est la réception finalement de sa théorie chez les géographes, les géologues, les physiciens. J'ai compris qu'elle avait été combattue de manière très vive. Il faut peut-être rappeler que Wegener est allemand. Juste avant la Première Guerre mondiale et que ça joue dans la diffusion possiblement de cette théorie.
Oui, alors, il formule sa théorie en 1912. Un intérêt, je fais ici un point assez intéressant du point de vue de sa théorie, c'est qu'elle peut être vérifiée. D'emblée, il suffit de faire des mesures pour savoir la distance entre une ville qui se trouverait sur le continent européen et une ville qui se trouverait en Amérique. Eh bien, dès 1914... un institut de Potsdam va déléguer une mission qui va aller aux États-Unis pour mesurer le temps que vont mettre des messages pour venir d'Allemagne et traverser l'Atlantique à travers les câbles, voir si au cours... Alors, évidemment, la mesure, ça sera pas une réponse définitive en 1914. Hein, mais
On
commence là, et puis sur 10 ans, sur 20 ans, on continuera les mesures et on verra comment ça évolue. Alors, évidemment, 1914, la mission commence en juin. En août, elle est interrompue, les câbles sont détruits. Évidemment, c'est l'entrée en guerre. Et donc, la théorie va être discutée en Allemagne et dans les pays qui sont germanophiles au cours de la Première Guerre mondiale. Et bien évidemment, il y aura un blackout sur cette théorie dans les pays alliés.
Elle est de nouveau présentée en fait dans le public francophone en 1922.
C'est ça.
Je crois. Et justement, c'est peut-être intéressant de voir que elle ne se diffuse pas chez les géologues. En tout cas, il n'y a pas d'acceptation de cette théorie. En revanche, pour les amateurs de science, il y a quelque chose qui se diffuse et c'est assez étonnant de voir que le grand public, en fait, accède finalement très rapidement à la dérive des continents.
Oui, il y a un aspect qui est assez intéressant de ce point de vue-là. La dérive des continents, c'est une expression assez commune désormais. Hein. C'est comme dire, c'est le Big Bang, etc. On part sur des termes qui ont un contenu scientifique, mais tout en ignorant finalement le détail du contenu scientifique, on utilise des expressions comme ça. Et effectivement, la dérive des continents, la recherche à l'issue de la Première Guerre mondiale va être organisée de façon à boycotter les savants des pays alliés à l'Allemagne et allemands, bien entendu.
Pour toutes les sciences, pas
et pour toutes les sciences, absolument. Ça va être organisé de cette façon-là. Il y a un congrès qui va s'organiser en 1922, à l'été 1922, en Belgique, donc un pays qui a été occupé pendant 4 ans par l'armée allemande, avec pas mal d'exactions qui ont été répertoriées. Et pour ce congrès, il n'y a pas vraiment de place pour discuter la théorie de Wegener. Quelques mois avant que se tienne ce congrès, un géologue suisse, pays neutre, va exposer la théorie de Wegener de façon très favorable. Élie Gagnebin, tout à fait, dans une revue qui, à l'époque, est une revue de vulgarisation de haut niveau, une revue de vulgarisation scientifique de haut niveau. Et donc, à partir de là, les géologues, par exemple, puisque vous les évoquiez, vont commencer à se dire « peut-être qu'il faudrait qu'on se penche là-dessus ». Ce sera pas pendant le congrès de Bruxelles, mais la Société géologique, par exemple, va organiser un débat en 1923 autour de cette théorie.
Quel va être le résultat de ces débats? Comment émerge la théorie de la tectonique des plaques? C'est la suite de notre programme, juste après ça.
Avec ma copine bien-aimée, je regarde les cartes du monde entier. il y a des continents incroyables ailleurs. Pareil qu'en Océanie, on reste bébé pendant toute sa vie. Les orchestres font du bruit pour chasser les ogres en Océanie. Le président est déguisé en kangourou. On marche à l'envers en gigotant des genoux. Les pigeons font pipi au nid en Océanie. Avec ma copine bien-aimée, je regarde les cartes du monde entier. Y a des continents incroyables ailleurs. Pareil qu'en Amérique, les sacs poubelles, ça sert de slip. Tout le monde trouve ça très chic de jouer au cow-boy dans toute l'Amérique. Les hamburgers sont des nuages en forme de cœur. Les bisons roulent à fond dans leur tracteur. Les écoles sont en plastique en Amérique. Avec ma copine bien-aimée, je regarde les cartes du monde entier. Y a des continents incroyables ailleurs. Il paraît qu'en Asie, ce sont les avions qui vont faire du ski. Il pleut de la vache qui rit et des confettis dans toute l'Asie. Les éléphants en salopette ont au moins 5 ou 6 têtes. Le ping-pong en brouette, bah, c'est super chouette. Il paraît qu'en Asie, y'a même pas de nuit. Avec ma copine bien-aimée, je regarde les cartes du monde entier. Y'a des continents incroyables ailleurs. Il paraît qu'en Afrique, la forêt vierge, elle est élastique. On trouve dans les boutiques tout plein de mammouths partout en Afrique. Toutes les villes poussent dans de gigantesques bulles. Fait tellement chaud, tout le monde met au moins 3 bulles. Lyon, les porcs épiques jouent à la PlayStation en Afrique. Ah oui, il y a des trucs étonnants dans tous les continents. Et même ici, chez nous, en Europe, même les escargots, eh ben, ils galopent. On mange les escalopes en Europe. Les bébés, ils naissent dans les choux en Europe. Le dimanche, on va sur la lune et hop, on voit l'Europe. Dans les parkings, il y a toutes les voitures qui dansent.
Yeah, yeah.
On joue au foot contre les crevettes partout en France. Et on met des chaussettes propres en Europe. En fait, c'est extraordinaire. Partout, c'est extraordinaire. J'en parle avec Madame Michou au marché. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Des continents incroyables de François Hadji sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui la découverte de la tectonique des plaques. On va y venir avec Philippe Le Vigouroux, historien des sciences et chercheur associé au Centre François Viette. Et à distance avec nous également Pierre Savaton, historien des sciences et enseignant en géologie à l'université de Caen Normandie et chercheur également au Centre François Viette. On a commencé justement à parler de cette théorie de Wegener, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'elle a été rejetée. Il y a eu plusieurs congrès. Pierre Savaton, qu'est-ce qu'on sait finalement un petit peu de ces années 30, même 40, de la réception finalement de cette théorie? Est-ce que d'une manière unilatérale, la communauté scientifique dit on la rejette?
Alors, je reviendrai juste un petit peu en arrière quand vous dites 30-40. Philippe Le Vigouroux l'évoquait, ce congrès de 23, puis un congrès des géologues pétroliers américains en 1926, où, en fait, on est devenu sur le débat à la dimension internationale. Donc, si on regarde dans le détail, on pourrait dire que certains domaines scientifiques ont considéré que ces conclusions étaient tirées par quelqu'un qui leur était extérieur, qui ne maîtrisait pas Donc, effectivement, il faut envisager qu'il y a eu, en fait, du rejet qui était lié à, en fait, il n'est pas du sérail. Voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a pu agir. Mais je pense que fondamentalement, ce qui va jouer dans ces années 20, une fois, comme Philippe l'a rappelé, que les géophysiciens, surtout, ont mis en avant qu'il n'y avait pas de moteur, Wegener le reconnaissait lui-même, il n'y a pas de moteur. Et donc, s'il n'y a pas de moteur, eh ben, il n'y a pas de théorie. Et ça, ça nous renvoie, en fait, sur une opposition qui me paraît plus centrale. Émile Argan, qui est l'homme qui, dans la tradition naturaliste, va avec son marteau, casse du caillou, observe les déformations, etc. Émile Argan, quand il parle de théorie, il disait, si vous permettez que je cite, « La validité d'une théorie n'est rien d'autre que son aptitude à représenter l'ensemble des faits connus au moment où elle accourt. » Et Émile Argan dit, à ce compte, la théorie des grandes translations continentales de Wegener est d'une validité florissante. Mmh. Ça, c'est une approche par induction. Et l'opposition des physiciens, des géophysiciens, va être aussi une opposition épistémologique forte. Si on prend son principal opposant, Harold Jeffreys, l'homme qui dit, ok, alors calculons, regardons les propriétés, on nous dit qu'un continent pourrait se déplacer comme ça, comme un glaçon, à travers la base de l'océan, du substrat de l'océan, eh bien, prenons en compte la dureté de ces roches, la dureté des autres roches, et ça marche pas. Et donc, il rentre par la propriété, et à l'inverse, Harold Jeffreys, comme les géophysiciens de l'époque, quand il s'adresse aux géologues, dans sa thèse de géophysique, il est à l'origine d'un très beau modèle géophysique, dans sa thèse géophysique, il dit « si les géologues ne comprennent pas les chapitres mathématiques de ma thèse, qu'ils passent au chapitre suivant et fassent confiance aux mathématiciens. Mmh. » Et donc là, on a aussi une opposition, et ça, ça joue dans ce rejet, c'est-à-dire une géophysique qui s'appuie sur des principes physiques, et l'application, et de l'autre côté naturaliste. Donc, Philippe pourrait sûrement compléter, mais c'est vrai que quand on regarde les soutiens que Wegener a pu avoir, dans les années 30, si la messe est dite parce que finalement, ben, on abandonne, on va voir quelques communautés scientifiques garder cette idée parce que finalement, elle leur permettait d'expliquer plus simplement des observations. Et puis, du côté de la géophysique, par contre, c'est enterré. Même si, et c'est ça quand même la chose qui est tout à fait étrange, même si quand on regarde des publications de cette même époque, eh bien, on découvre des choses qui sont magnifiques. La radioactivité qui a été découverte à la toute fin de ce 19e siècle, cette radioactivité, elle a deux conséquences. Si les roches renferment des éléments radioactifs, alors on pourrait calculer l'âge des roches, ça c'est un champ des sciences, mais également, si elles renferment des éléments radioactifs, la désintégration entraîne une libération de chaleur, donc ces roches peuvent s'échauffer, donc la Terre peut s'échauffer. Et si la Terre s'échauffe, il faut dissiper la chaleur. Eh bien, on a Holm, un physicien, cette fois-ci, donc pourtant de l'autre champ, un physicien qui va s'intéresser à cette dissipation de la chaleur, qui va penser ce qu'on appelle des courants de convection. On peut dissiper de la chaleur par conduction de proche en proche, ou on peut la dissiper en déplaçant de la matière chaude. Il va penser la convection et il va proposer un modèle pour dire, eh bien, par exemple, sous un continent unique, on peut avoir une montée de chaleur. Cette chaleur tente à se dissiper, donc elle se déplace latéralement, ça déchire le continent, ça nous forme un océan et deux blocs qui migrent. Mais ça va être développé dans le champ de la géophysique et finalement, d'une manière indépendante, en quelque sorte, on va continuer à parler de dérive des continents, mais sans la thèse de Wegener.
Mais ce qui est important de comprendre à ce niveau-là, c'est que Philippe Le Vigouroux, il va y avoir une convergence finalement de champs disciplinaires extrêmement différents. Là, on a commencé à toucher à la radioactivité, oui. Mais il y a un autre élément, si on veut avancer dans cette histoire qui paraît centrale, c'est l'exploration des océans. Parce que là, on parle finalement que des terres émergées, on ne regarde que les terres émergées, qui ne sont pas du tout la majorité de ce qu'il y a sur la planète. Et en fait, c'est là où se trouve, entre guillemets, la solution à tout ça.
Alors, c'est là que se trouve la solution. Juste avant d'aborder le fond des océans, peut-être un petit mot. Dans les années 30, la théorie de Wegener va trouver aussi, va trouver, on va dire, un public réceptif chez les biogéographes. C'est-à-dire les personnes qui étudient la répartition des espèces animales, végétales, et ça va être un phénomène, un processus explicatif à cette répartition. Et donc, on va dire dans les années 30 et 40 et jusque dans les années 50, voilà, il y a des débats qui s'installent dans cette communauté des biogéographes.
Et on acquiert de plus en plus de données, j'imagine, on ne fait pas rien.
Absolument, tout à fait. Il y a un cumul de données qui se fait également pendant toute cette période qui va toujours dans ce sens. Deuxième aspect, effectivement, c'est la connaissance des fonds des océans. Hein. Au moment où Wegener formule sa théorie au début des années 1910, peu de choses sont connues sur le fond des océans.
Il y a l'expédition de Challenger, peut-être.
Alors, il y a eu des missions, effectivement, à la fin du 19e siècle qui ont été faites. Les Allemands vont développer également une mission météore au cours des années 20, qui va ramener aussi beaucoup d'informations. Mais
guerre, peut-être, a servi aussi indirectement à...
Absolument. Alors, la Seconde Guerre mondiale va effectivement permettre d'acquérir un certain nombre de données sur les fonds océaniques. Il va y avoir une recherche aussi qui va être dans l'intérêt
de la guerre
et dans l'intérêt des militaires, on va dire, pour tout ce qui concerne les combats sous-marins en particulier. Et effectivement, dans les années 50, il y a beaucoup de programmes qui vont pouvoir être financés pour connaître ces fonds océaniques. Et justement, dans les années 50, cette accumulation de données sur les reliefs, sur la présence de failles, etc., au niveau des océans, va permettre de faire émerger une nouvelle interprétation de ce fond des océans qui va déclencher, on va dire, le renouveau de la théorie de Wegener.
Il y a une femme dans cette histoire dont j'aimerais peut-être qu'on parle, je ne sais pas lequel de vous deux pourra en parler, mais je vous interroger Pierre Sabaton là-dessus, c'est Marie Tarpe qui remarque justement une particularité qui est centrale, il y a une vallée dans la dorsale océanienne, donc cette longue limite ininterrompue au cœur des océans, c'est un élément là aussi primordial, je ne sais pas si vous connaissez quelques mots peut-être sur elle.
Alors, Marie Tarpe, c'est un personnage effectivement qui a été en quelque sorte masqué pendant longtemps et qui réapparaît maintenant.
C'est l'effet Mathilda.
Temps, je voudrais quand même préciser parce que c'est vrai qu'on va parfois un peu vite en besogne aussi parce qu'il faut se remettre dans le contexte et puis regarder les dimensions des apports. Comme l'a dit Philippe, cartographier le fond de l'océan, la topographie, l'allure des fonds de l'océan, c'est encore entièrement à faire au début du XXe siècle. Même si on sait déjà qu'il y a une dorsale dans l'Atlantique, on le sait quand on a passé le premier câble télégraphique, on s'est aperçu qu'il y avait comme une chaîne de montagnes. Même si dans les années 1930, on va dire que cette chaîne de montagnes au milieu de l'Atlantique, elle n'est pas seule. Il y en a une aussi du côté de la mer Rouge, il y en a une dans l'océan Indien. Donc on a cette idée qu'il y a un relief tout à fait étonnant. Ceci étant, on n'avait pas de cartographie générale. Et donc on va lancer, et vous l'avez dit, la guerre y est aussi pour quelque chose, parce que en développant une technique pour ausculter le fond, des sonars, des éco-sondeurs, on va améliorer donc les mesures, on n'a plus besoin de descendre un plomb au bout d'une corde pour savoir à quelle profondeur est le son, on va se baser donc sur une mesure physique et donc on va commencer à établir de grands transects, c'est-à-dire qu'un bateau se déplace et en fait l'écho lui dit à quelle profondeur est le fond du sol. Et donc on va faire des lignes, comme ça on peut traverser un océan d'un bout à l'autre, on fait des lignes. Mais en fait avec des lignes, ça ne vous fait pas une carte. Et c'est là où Marie Tarps va se trouver chargée d'une mission qui est incroyable pour cette époque, c'est transformer ces lignes qui sont les déplacements d'un bateau, donc des lignes, des transects, en une carte, et établir des liens entre des lignes qui sont parallèles, qui peuvent être parallèles de 100 km, mais il va falloir en quelque sorte inférer, à partir des profondeurs observées sur la ligne du bateau, inférer comment on peut relier une ligne à la suivante et avec des lignes, produire un fond, produire une carte. Et donc, Marie Tarpe va passer sa carrière là-dessus. Donc, elle travaille pour une des trois grandes structures d'exploration du fond des océans qui est le Lament, parce que ça aussi c'est une particularité. On va avoir des institutions qui se spécialisent dans l'exploration du fond des océans. Elle travaille pour le Lament avec Bruce Eason.
Ce qu'il faut souligner, je me permets de vous couper, c'est qu'elle n'est pas quand même tout de même pas autorisée à monter à bord des bateaux et des expéditions parce que c'est une femme.
Oui, oui, oui. En même temps, je pourrais vous prendre un contre-exemple, une femme qu'on ne cite jamais, Tanya Atwater. Tanya Atwater, qui est aussi à la SCRIP dans le même laboratoire, mais seulement à partir de 1972. C'est pour ça que je dis, faut qu'on regarde aussi les dates. Et Tanya Atwater, qui a fait 12 plongées sur la dorsale, qui est la grande spécialiste à bord du sous-marin Alvin. Et donc là, dans un espace encore plus clos, un espace où au début, on n'imagine même pas une femme. Et en fait, on a différentes figures. C'est vrai, il faut le reconnaître, qu'on a les l'héritage du bateau et qu'il faut bien voir qu'on est en mission en mer. Et donc, on a toutes les représentations des marins sur la place des femmes dans les bateaux qui jouent encore dans les années 50. Donc, c'est vrai qu'elle ne monte pas sur le bateau et elle fait le travail à terre. Sur les bateaux, en fait, on collecte ces données, mais son travail à elle, c'est pas de collecter la donnée, et c'est encore plus fabuleux, j'allais dire, parce que c'est pas un simple instrument technique qu'il va falloir retraiter après. Elle, c'est créer une surface à partir de lignes. Donc il y a une dimension d'interprétation, et vous l'évoquiez tout à l'heure, si on savait qu'il y avait des dorsales, donc des dorsales, c'est-à-dire des reliefs positifs, elle va identifier que, d'après ses coupes, au milieu de cette dorsale, il y a une zone effondrée. Cette zone est effondrée par une découpe avec des fractures, des failles, et ces failles, ça traduit en géologie, en quelque sorte, une extension. Et donc c'est vrai que découvrir ce fossé, comme on l'appelle, au milieu, ou ce rift, au milieu de la dorsale, va aussi avoir une conséquence en termes de dynamique, c'est-à-dire d'un aspect statique de départ qui est à quoi ressemble le fond. On a une interrogation dynamique sur, pour avoir un fond de cet ordre, comment ça fonctionne d'un point de vue cinématique ou dynamique.
On va avancer justement dans cette histoire. On arrive finalement à la théorie du sea floor spreading, si je tente une traduction française, l'expansion des fonds marins. Donc en fait, c'est d'ici que tout démarre, entre guillemets. Philippe Vigourou, tout démarre du cœur des océans, on commence à le comprendre, et ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est où est-ce que ça part. C'est-à-dire ce modèle de tapis roulant, il faut un bout en fait finalement à tout.
Tout à fait. Il faut si on écarte au niveau des dorsales océaniques et la vallée du Rift, comme vient de l'évoquer Pierre, il faut que quelque part ailleurs ça disparaisse. Sinon, il faut imaginer un globe terrestre qui croît en volume, effectivement, qui gonfle. Alors, juste une parenthèse aussi, parce que quand naissent les théories, les chercheurs qui sont impliqués peuvent partir sur quelquefois des idées qui vont pas être confirmées. Et Pierre citait Bruce Eason, avec qui travaillait Marie Tarp tout à l'heure. Il citait ce géophysicien. Et en fait, Bruce Eason va être partisan d'une croissance, d'une expansion du globe terrestre. Hein, voilà, il va adhérer à cette théorie, et justement, quand il fait ses travaux sur l'axe des dorsales, il a ça en tête, essayer de prouver qu'il se passe quelque chose.
Alors donc, il faut que ça parallèle. Oui.
Voilà, c'est ça. Il y a des théories qui ne vont pas être validées par la suite, hein, bien entendu.
Si on en revient au sea floor spreading, justement.
Voilà, c'est ça.
Peut-être qu'il est intéressant de dire, on a commencé à parler des autres découvertes comme la radioactivité pour dater les roches. Il y a aussi l'essor de la sismologie. On se rend compte que les séismes ne se produisent pas n'importe où. On a aussi finalement le magnétisme qu'enregistre la roche. On va commencer finalement directement, à tester petit à petit la théorie pour pouvoir comprendre justement la tectonique des plaques.
C'est ça, il va y avoir des données qui viennent, comme pour Wegener, des données qui viennent de différents horizons. Et ici, il y a des données qui vont venir effectivement des données sismiques, des données pétrologiques. On va avoir une meilleure connaissance aussi de la nature des roches qui constituent le fond des océans. Hein. Il va y avoir des carottages qui vont être faits, etc. Dans les années 60, au tout début des années 60, il va y avoir des données sur les roches des fonds océaniques qui vont permettre de mettre en évidence ce qui se passe au niveau de l'axe des dorsales. 1963, Vine et Matthews, deux géophysiciens, vont proposer une hypothèse, en quelque sorte, et les conséquences de cette hypothèse d'une formation des roches au niveau de l'axe de la dorsale. En s'éloignant de l'axe de la dorsale, on devrait pouvoir retrouver des propriétés magnétiques symétriques par rapport à cet axe et qui traduisent un âge de plus en plus important en s'éloignant de l'axe.
Donc cette symétrie en fait va indirectement prouver déjà qu'il y a cette propagation des fonds marins. Pierre Savaton, vous vouliez réagir ?
Oui, sur ce magnétisme, parce que c'est vraiment un acteur important et un acteur que n'avait pas imaginé Wegener. Donc, en termes de renouveau, le magnétisme qu'on connaît depuis fort longtemps, en 1600, Gilbert a écrit un ouvrage, c'est le médecin de la reine d'Angleterre, un ouvrage pour montrer que la Terre est un dipôle magnétique. Et donc, propose une première interprétation de ce dipôle. Et Gauss va mettre en place, le mathématicien Gauss, va mettre en place ensuite tout un réseau de mesures dès le début du 19e siècle. Et quand on arrive au début du 20e, j'allais dire troisième acte, on se rend compte qu'il y a des inversions, le pôle nord magnétique devient sud magnétique. Et donc là, certains chercheurs, physiciens, vont se spécialiser dans cette étude. Et puis, comme le disait Philippe, on va découvrir en 48 que certaines roches sont capables d'enregistrer les caractéristiques du champ au moment où elles se sont mises en place. Donc, on voit comment, peu à peu, on progresse, et le magnétisme, qui ne figure pas, en gros, dans la thèse de Wegener, va devenir un élément déterminant, puisque ce sont ces paléomagnéticiens, ceux qui s'intéressent à ce champ magnétique ancien, fossilisé dans les roches, qui vont ressortir cette idée que si on peut mesurer, en quelque sorte, si on peut déterminer où se trouvait le pôle Nord à un moment donné, on peut peut-être tester l'hypothèse de savoir est-ce que les continents ont dérivé, est-ce qu'il y a une dérive des continents, ou est-ce que c'est le pôle qui se promène. Alors c'est très intéressant parce que dans l'histoire, bien souvent on a une thèse, puis on teste une thèse. Ici, on va voir deux équipes qui vont tester les deux thèses opposées. Runcorn d'un côté, et dans l'idée que le pôle Nord doit dériver au cours du temps. Le polar wandering, qu'on a appelé errance du pôle. Et de l'autre côté, un autre géophysicien qui travaille lui aussi sur le magnétisme, Blackett et son équipe, est plutôt sur l'idée que ce doit être les continents qui se déplacent. Alors Blackett, on lui doit cette fameuse étude qui a montré que l'Inde, que l'on connaît dans l'hémisphère Nord, devait se trouver il y a 100 millions d'années dans l'hémisphère sud, plutôt à l'endroit où se trouve l'île de la Réunion, et qu'elle s'est déplacée au cours du temps. Donc il arrive à l'idée que les continents ont dû se déplacer dans les 100 millions d'années. Et Runcorn, de l'autre côté, qui lui est sur l'autre hypothèse, qui essaye de démontrer que c'est le pôle qui erre à la surface du globe, eh bien, c'est ça qui est tout à fait remarquable, va arriver à la conclusion que si on regarde l'errance du pôle vue du côté du continent nord-américain, on peut faire une trace, on peut retracer son errance dans les 500 millions d'années derniers. Et si on fait la même chose du côté de l'Europe, on a une autre trace. Mais si vous faites disparaître l'Atlantique, vous juxtaposez les deux traces. Donc, c'est bien les continents qui dérivent.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
On arrive à la fin de cette émission, on pourra en parler encore des heures. Je le sens, là, on commence justement à pouvoir toucher à la tectonique des plaques. On voit que ces nouvelles découvertes, les nouvelles découvertes sur les séismes, sur le magnétisme, vous l'avez dit, permettent d'élaborer en fait finalement un nouveau modèle. Toutes les observations sont là et on arrive en 1968, toutes les pièces sont là, elles s'emboîtent et on est à l'aube d'une révolution selon Xavier Le Pichon, le français de notre histoire.
Nous, Français qui aimons bien parler de révolution, 68 a été ce qu'on appelle la révolution dans les sciences de la Terre. Il y a eu une coïncidence. D'ailleurs, c'est l'année dans laquelle je suis rentré des États-Unis pour me trouver au milieu des pavés ici. Donc, je l'ai vécu à un double titre comme un passage un peu brutal. La raison pour laquelle on en parle comme d'une révolution, c'est que on vivait pour l'essentiel dans des conceptions fixistes, c'est-à-dire que les continents montaient et descendaient, ainsi que les océans, les chaînes de montagnes, c'est des mouvements essentiellement verticaux. Il n'y avait pas de grands déplacements et tout était pensé en fonction d'une Terre qui avait essentiellement des mouvements verticaux. Et donc, le passage brutalement à une Terre dans laquelle la configuration change continuellement, hein, qu'il y a 100 millions d'années, ça ne ressemblait pas du tout à la Terre actuelle, et il y a 200 non plus, et il y a 500, et il y a 1 milliard d'années. Donc il y a une véritable reconfiguration continuelle des continents à la surface de la Terre, avec probablement au moins 3 pangées, 3 épisodes durant lesquels la Terre a eu tous les continents rassemblés. C'est une révolution, parce que ça veut dire qu'on n'avait rien compris à la Terre.
Une archive de l'INA dans le temps des sciences sur France Culture en 1998. Alors, je ne sais pas si l'un et l'autre, vous avez connu Xavier Le Pichon, grand géologue, qui justement a fini par déterminer, en fait, avec un aspect quantitatif, un peu le phénomène de la tectonique des plaques. On va y venir. Nous sommes à la toute fin de l'émission, Pierre Savaton. Donc, rapidement, j'aimerais vous interroger sur le caractère un peu révolutionnaire et le changement de paradigme en fait, qu'a apporté la tectonique de plaques, si vous voulez en dire quelques mots.
Oui, parce que Xavier Le Pichon, en plus, utilise ce mot qui va être pris par un historien des sciences, une révolution dans les sciences de la Terre. Il publie en 73, c'est Anthony Hallam. Et ce mot qui reprend à Thomas Kuhn. Donc là, on est en plein débat épistémologique. Thomas Kuhn, épistémologue, dans la structure des révolutions scientifiques, a montré que la science progressait par de longues périodes où il y avait un paradigme, une sorte de thèse des thèses, un cadre commun. Et puis, à un moment donné, ce cadre commun connaît une crise. Et cette crise va déclencher une révolution, c'est-à-dire que on va abandonner ce cadre pour un nouveau cadre. Et donc là, il y a quelque chose qui se pose, puisque pour les géologues, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de cadre unificateur, et avec ce premier modèle, le premier modèle de la tectonique des plaques à la fin des années 60, il y a en quelque sorte un cadre unificateur, une théorie unificatrice. Après, évidemment, il peut y avoir discussion, si on prend strictement le modèle de Kuhn, c'était le remplacement d'un cadre paradigmatique par un autre, et là, la question peut aussi se poser de savoir est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un moment de fondation d'une science de la Terre unifiée dans laquelle tout le monde va pouvoir trouver sa place ou de refondation plutôt que de révolution. Mais ça, donc c'est important de voir que ça marque fondamentalement, il y a un avant, il y a un après. Après tous les travaux qui vont se faire en géologie, même si certains vont un peu traîner les pieds dans les années 70, tous les travaux qui vont se faire en géologie, en géophysique, mais aussi en biologie, s'inscrivent dans le cadre de la tectonique des plaques.
Un mot justement, Philippe Levigourou, sur ce caractère de révolutionnaire en fait de la tectonique des plaques, et puis peut-être le fait qu'il a fallu corriger les manuels scolaires, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la première théorie, celle de la dérive continent, qui est donc fausse, on l'explique, a peut-être perduré en fait chez le grand public. Oui. Moi, la première.
Oui, c'est assez intéressant de voir ça. Alors, en fait, quand on passe de la dérive des continents à la tectonique des plaques, donc des années 1920 pour les discussions scientifiques et aux années 60-70, on change la conception de la surface de la Terre. On n'a pas la même vision. Ce sont plus des continents qu'il faut prendre en compte, mais des zones d'activité sismique, les frontières de plaques. Et l'intérêt de Xavier Le Pichon, c'est que au niveau de frontières de plaques, il va être en mesure de faire des calculs et de prédire les mouvements qui vont se produire, la vitesse de ces mouvements.
Et c'est tout ce qui manquait finalement.
Et à partir de là, on va pouvoir déterminer de façon mathématique, Pierre l'évoquait tout à l'heure, ce qui va pouvoir se passer au niveau d'une dorsale, ce qui se passe au niveau des zones de subduction qu'on a peut-être trop rapidement évoquées tout à l'heure. Là où ça plonge entre le domaine océanique et puis un domaine continental ou un autre domaine océanique. Et donc, d'abord un modèle à 6 plaques par Xavier Le Pichon, qui va se développer avec de nombreuses plaques
avec des
ensuite.
Plaques majeures et mineures.
Exactement, une très grande diversité. Et puis, selon les auteurs, la prise en compte de certaines zones comme plaques ou pas. Et donc, à partir de là, dans les années 70, des travaux vont venir, les géologues vont continuer d'explorer les océans et vont trouver, par exemple, au niveau des carottages qui vont être faits au niveau océanique, confirmation dans les sédiments qui sont déposés dans le fond des océans, de cette expansion qui peut se faire au niveau des dorsales océaniques et ainsi de suite. Effectivement, tout désormais s'inscrit dans ce cadre de la tectonique des plaques.
Et il y a plein d'autres conséquences. On a parlé très rapidement de l'unification des sciences de la Terre. On ne pourra pas y revenir plus largement. Pierre Sabaton, un dernier mot, une dernière question. On parle de théorie ou de modèle de la tectonique des plaques. Est-ce que ça veut dire qu'elle évolue encore à l'heure actuelle?
Tout à fait. Tout à fait. Quand on a la curiosité de relire l'énoncé de ce modèle, par exemple, si on prend ces grandes zones de fosse, ces zones de subduction, on avait l'idée à cette époque-là que les plaques fondaient au fur et à mesure qu'elles descendent. Et on va montrer par la suite que non, elles ne peuvent pas fondre, elles peuvent se déshydrater, en perdant de l'eau, elles peuvent déclencher la fusion, etc., etc. C'est-à-dire que c'est bien un modèle qui permet de rendre compte de l'état des connaissances, qui permet de tester un certain nombre d'hypothèses et puis d'intégrer les observations de terrain qui font que, on peut dire que depuis 50 ans, il n'a cessé d'évoluer, mais il reste. C'est-à-dire que l'architecture générale c'est ça la grande force, même si on prend chaque élément de détail, ils ont tous été modifiés, affinés, en quelque sorte.
Merci à vous deux, Pierre Sabaton et Philippe Levigourou, d'être venus nous raconter l'histoire de la tectonique des plaques. Merci également à Loïc Dutoit pour la préparation de cette émission, à Sam Bakiast à la réalisation. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Noé Chaban. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique avec La Terre de Bibi Club.